Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Desclèbe pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de Demain. Les Adultes de Demain, c'est une conversation autour de l'éducation et la parentalité. Comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme et nous souhaitons ainsi vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous avez à cœur d'offrir la meilleure éducation aux enfants, ce podcast est fait pour vous. N'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Aujourd'hui, on vous présente un épisode avec Caroline Jambon, que vous connaissez très certainement à travers ses blogs à succès « Apprendre à éduquer » et « Apprendre, réviser et mémoriser ». C'est une première pour Caroline de partager ses apprentissages non plus à l'écrit, mais par la voix. Et c'était un super moment. Nous avons parlé du concept de coéducation émotionnelle, de l'évolution de son parcours professionnel et surtout de l'éducation sans récompense ni punition. Profitez bien de ce moment et partagez-nous vos retours. Bonjour Caroline.
Bonjour, merci pour cette invitation.
Bonjour Caroline.
Merci à vous d'être avec nous ce matin à distance. On est super contente de pouvoir parler avec vous de l'éducation sans récompense ni punition.
Plaisir.
Et moi, j'aime toujours entendre au début de nos entretiens les parcours de nos invités qui sont souvent très très inspirants et je sais que le vôtre l'est. Donc j'aimerais pour démarrer que vous nous parliez de votre parcours professionnel et notamment de votre reconversion dans le domaine de l'éducation.
Oui, alors moi du coup à la base, j'ai fait une école de commerce, donc vraiment rien à voir. J'ai travaillé dans des services marketing en grande distribution et quand ma fille avait 2 ans, j'ai décidé de me reconvertir, voilà, pour donner plus de sens à ce que je faisais au quotidien. Et donc j'ai passé le concours pour être professeur des écoles en autodidacte en fait. Et je suis restée 1 an dans l'éducation nationale parce que pour moi, ça a été la plus grande leçon d'humilité de ma vie, je crois. Et je me suis retrouvée en classe totalement... je me suis sentie incompétente, en fait, vraiment incompétente, impuissante. Et je me suis dit, mais mince, je me suis retrouvée à être l'enseignante que je voulais pas être, hein, à me retrouver à mettre des croix sur des tableaux de comportement, à crier, à punir. Et ça a été vraiment très, très difficile pour moi parce que je me suis sentie sans ressources face à cette classe-là. Et puis, en parallèle, je me suis séparée du père de ma fille. Donc, je me suis retrouvée maman solo avec ma fille qui avait donc 2 ans et demi à l'époque. Et pareil, et là, même constat, je me suis retrouvée à être la mère que je voulais pas être, à l'envoyer au coin, à me mettre à crier. Et en fait, j'ai dit, mais non, stop, je veux pas de ces relations-là, en fait, ni dans mes relations professionnelles avec mes élèves, ni avec ma fille. Et donc, de là, je me suis dit, mais il doit exister des ressources, il doit exister des choses, je vais aller chercher. Et de là est né le blog, et je l'ai appelé « Apprendre à éduquer » parce qu'en fait, à la base, c'était vraiment moi qui étais en train d'apprendre, et je l'ai vraiment considéré comme un espèce de bloc-notes géant où moi, je pourrais retrouver des ressources dont j'aurais besoin. Et puis écrire, moi, ça m'a permis de vraiment mieux comprendre les choses, de les analyser, de faire des liens. Voilà, et donc aujourd'hui, je vis de mes blogs et j'écris des livres et j'en suis ravie parce que je reçois tous les jours des retours de lecteurs et lectrices qui me disent merci, voilà, qui me disent vous m'avez aidé à améliorer la relation avec ma fille et c'est hyper gratifiant. Enfin, je suis tellement heureuse de cette reconversion. Voilà, je me sens très chanceuse.
Génial. Et pourquoi est-ce que vous pensez qu'il vous est arrivé cette situation quand vous étiez à l'Éducation nationale? C'était un problème de formation ou est-ce que vous aviez des croyances qui n'étaient pas en accord avec ce qui se passait réellement? Comment ça se fait que vous ayez eu cette révélation?
Alors, je pense qu'effectivement, c'était un problème de formation, mais parce que moi, je me suis reconvertie. Et j'ai fait le choix de passer le concours en autodidacte. Et en gros, j'ai vraiment eu l'impression de repasser le bac, plus ou moins. Parce que le concours, à l'époque, était très orienté contenu, en fait. Voilà, maîtrise des contenus, grammaire, maths, etc. et très très peu de psychologie de l'enfant. Et moi, comme c'était une reconversion, je pense qu'aussi j'avais un idéal de ce métier très fort, de dire moi je veux donner du sens à ce que je fais, je veux me sentir utile. J'avais déjà à l'époque une sensibilité aux pédagogies alternatives parce que j'y voyais vraiment une volonté d'émancipation pour les enfants. Donc voilà, avec et personne dans mon entourage en fait qui travaillait dans le milieu de l'éducation. Je viens d'un milieu, mes parents sont viticulteurs, enfin voilà, et j'ai plutôt d'un milieu, on va dire, agricole. Et ça a vraiment été une grosse, grosse désillusion. En fait, je pense que j'étais très naïve et pas formée, ce qui fait que ça a été, un vrai choc, mais vraiment. Je me revois pleurer en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait, et en fait je me sentais aussi très coupable envers mes élèves, de me dire mais je veux pas faire vivre ça à mes élèves, je veux pas être cette maîtresse qui crie et cette maîtresse qui punit, et en même temps je me sentais très démunie parce que je savais pas où chercher. Et quand j'en ai parlé parce qu'on a quand même un tutorat en fait quand on est professeur des écoles débutants. Et quand j'en ai parlé, aux autres enseignants, puis à ma tutrice en l'occurrence, on m'a dit, punis plus. C'est pas cette relation-là que j'ai envie de nourrir avec mes élèves. Et j'ai même eu une personne qui m'a dit, t'as qu'à retourner travailler dans les bureaux si t'es pas contente. Donc voilà, avec vraiment un manque de soutien. Mais je pense que c'était des personnes en fait qui étaient aussi très démunies, et je suis pas sûre qu'elles étaient très heureuse dans ce métier-là, mais avec aussi une hiérarchie qui encourage. Alors à l'époque, parce que c'était en 2015, donc peut-être que ça a changé depuis. Mais voilà, en tout cas, moi, je me suis vraiment sentie très très démunie, et cette volonté de dire je veux pas me faire du mal à moi et je veux pas faire du mal à mes élèves. Donc en fait, j'arrête le carnage, quoi. Hein, clairement.
C'est courageux comme décision.
Ouais, mais je crois que quand j'étais déjà dans une volonté de reconversion. C'était de dire mais non, je vais pas me reconvertir pour quelque chose où je vais à nouveau pas trouver de sens, et j'ai vraiment envie de donner du sens à cette reconversion. Donc pour moi j'étais prête à dégrader mon niveau de vie, hein, clairement, mais pas ma qualité de vie. Et là je voyais vraiment que j'allais dégrader ma qualité de vie, et que j'allais être en fait il aurait fallu que je me forme en étant en classe. Et je pense que toutes les personnes qui ont été instites ou qui ont côtoyé des instites savent que c'est un métier hyper fatigant, et je pense que j'étais pas capable de faire les deux, à la fois de me former sur tout le côté pédagogie alternative, psychologie de l'enfant, et assurer ma classe en tant que professeur des écoles débutantes première année où on a tout à préparer. Et comme j'étais toute seule avec ma fille en plus, je dis je vais m'y perdre. En fait, je me suis vue m'y perdre. Donc j'ai dit arrête.
Et ça faisait partie de votre cheminement en fait, oui. vers ce blog.
Oui, mais vraiment, je crois que ça a vraiment nourri. Puis il y a eu, le blog est vraiment né de cette souffrance-là. Il y a vraiment eu un truc où je dis mais pourquoi si peu d'informations, pourquoi si peu de formation, alors que les ressources, je me suis rendu compte qu'elles existaient, et juste qu'elles étaient très peu médiatisées, très peu enseignées, parce que j'ai eu quelques cours à l'UFM, enfin l'ESPE maintenant, donc le centre de formation, mais je crois qu'on a eu 5 jours de formation. Donc j'avais entendu mentionner Montessori et Freinet. Je le reconnais, mais mentionné, c'était pas vraiment encouragé. Et puis surtout, je me suis dit mais je dois pas être la seule. Je veux pas croire que je sois la seule à me retrouver impuissante. Et je suis sûre qu'en créant un blog, je me suis dit l'information elle sera quelque part, elle sera accessible pour les gens qui cherchent. Ils pourront la trouver plus facilement que ce que moi j'ai dû faire, d'aller farfouiller en médiathèque, et puis d'aller. Je prenais aussi dès que je trouvais un bouquin intéressant, je prenais toute la bibliographie, vous savez, à la fin. Et puis j'allais lire du coup les livres, et puis voilà, de fil en aiguille aussi, je lisais les bibliographies des bibliographies, et donc voilà, mais c'était hyper, moi ça m'a passionnée, et je me suis révélée aussi à moi-même. En fait, j'ai appris tellement de choses sur moi-même en passant par le biais de l'éducation, que je me suis dit, en plus j'ai envie de partager cet enthousiasme avec le plus grand nombre.
Ben, c'est ça. Ouais. Et qu'est-ce que vous souhaitez véhiculer à travers ce blog?
Alors moi, j'ai vraiment un double objectif, c'est le mieux-être à la fois des adultes et des enfants. Et sur le blog, j'espère que ça ressort sur Apprendre à éduquer, que vraiment l'idée, c'est de dire on ne parle pas de l'un sans parler de l'autre. Et l'idée, c'est aussi, j'ai une citation de Mère Teresa, je crois, qui m'accompagne au quotidien, c'est « La paix du monde commence à la maison ». Et vraiment, l'idée, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Et aussi de reconnaître que oui, c'est tellement difficile d'être parent dans la socioculture dans laquelle on vit, avec puis en plus dans le moment qu'on vit là, 2020-2021. Donc vraiment, voilà, de dire, d'apporter un mieux-être à la fois aux adultes, aux enfants, et en apportant des clés de compréhension. Parce que je trouve qu'il y a aussi tellement de malentendus. Mais juste parce qu'en fait, on manque d'informations sur la psychologie de l'enfant, par exemple, sur les stades de développement de l'enfant, à la fois développement moteur, émotionnel, cognitif, et puis aussi, on manque d'informations sur notre propre psychologie d'adulte. En fait, comprendre pourquoi on a des réactions explosives, mais moi, ça a été une révélation, en fait, de me dire, parfois, je me mets à crier, c'est plus fort que moi. Mais d'où ça vient? Et en fait, il y a des explications, et je trouve rien que le fait de comprendre, ça provoque des petites étincelles de joie, et on se dit oh, ah ouais. Et puis ça redonne du pouvoir sur ok, donc je peux agir là-dessus, et j'en suis capable, donc du pouvoir et de la compétence. Et je trouve que ça nourrit aussi cette non-violence que j'ai envie de mettre en avant.
Ouais, c'est super. Et c'est de là aussi que vient le concept de coéducation émotionnelle. Vous avez sorti un livre récemment à ce sujet.
Oui, c'est vraiment cette idée-là de dire, en fait, on est amené, nous adultes, à développer notre propre intelligence émotionnelle en même temps qu'on accompagne les émotions de nos enfants. Et coéducation émotionnelle, c'est vraiment l'idée que nous nous élevons en même temps que nous élevons nos enfants, et dans une espèce de spirale ascensionnelle et dans un chemin de reconnexion à soi. Profitons de notre parentalité ou de notre métier, je pense que ça fonctionne aussi très bien pour les enseignants, pour les animateurs, pour voilà, mieux nous connaître, mieux nous comprendre et nous reconnecter à nous. Et j'aime bien cette idée de spirale ascensionnelle parce qu'en fait, on va se rendre compte que les enfants, ils viennent toucher des points sensibles en nous. Des points vraiment difficiles qui vont nous faire surréagir parfois. Et du coup, c'est l'occasion pour nous de travailler ces points-là, de comprendre ce qui se passe en nous, de comprendre quels sont nos déclencheurs. Et comme on va travailler ces points-là, on va devenir plus compétent pour accompagner les émotions de nos enfants. Et en fait, il y a vraiment cette idée qu'on s'élève en même temps et qu'on a aussi le droit à l'erreur, c'est-à-dire que oui, là, j'ai crié alors que je voulais pas crier. Peut-être qu'il y a une fessée, ça arrive, qui est partie alors que j'avais résolument envie de non-violence. Et ok, d'où ça vient? Qu'est-ce que je peux en apprendre? Comment je répare la relation? Et comment aussi j'utilise ma culpabilité de parent comme terreau fertile, en fait, pour progresser, pour améliorer la relation? Et donc, l'idée de cette coéducation émotionnelle aussi, c'est de dire, je vais pas proposer des techniques de communication comme on voit souvent dans l'éducation positive, et c'est un peu ce qui peut lui être reproché, de dire, allez, on se fait une liste de 5 techniques de communication, on va passer des consignes positives, donc au lieu de dire, ne cours pas, marche, et puis voilà, vous êtes dans l'éducation positive, et puis vos enfants vont vous obéir. Non, moi, c'est vraiment l'idée du livre, c'était de dire, avant de chercher à acquérir des nouvelles manières de faire, ou des stratégies pour se faire obéir, en fait, on va apprendre à raisonner autrement et on va apprendre des nouvelles manières de penser aux relations adultes-enfants, et puis penser à la nature de nos demandes, à la qualité de la relation, à la manière dont on a aménagé notre environnement, à notre emploi du temps, par exemple, familial, pour venir nourrir en fait ce lien et puis et cultiver cette non-violence.
C'est super intéressant. Et j'avais vu aussi que vous insistiez sur l'importance de l'empathie. Alors moi, j'adore l'empathie. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus?
Oui, alors je vais juste revenir sur la coéducation émotionnelle parce que ça bouclera. la coéducation émotionnelle, elle s'appuie sur 10 points clés donc que je développe dans le livre pour apprendre à raisonner, donc pour aller chercher les causes des comportements qu'on estime inappropriés des enfants. Le comportement de cet enfant, il me met en difficulté et je peux m'appuyer sur un ou plusieurs de ces 10 points clés pour aller chercher la racine de ce comportement et pour aller chercher la vérité de l'enfant, pour mettre le décodeur en fait, et puis pour moi aussi m'apporter ce soutien en tant que parent ou que enseignant éducateur pour pouvoir accompagner cet enfant dans ce qu'il vit de manière non violente. Et l'empathie, bah, c'est en fait le quatrième point clé de la coéducation émotionnelle. Et il s'appuie sur tout un travail préalable, donc qui sont les trois premiers points clés de la coéducation émotionnelle, sur comprendre ce qu'est en premier la vraie nature des émotions. Donc vraiment se dire, faire preuve d'empathie, c'est aussi se dire qu'il n'y a pas d'éducation bonne ou d'émotion bonne ou mauvaise, ou positive ou négative. Juste, ce sont des messagères au service de la vie et elles sont toutes à accueillir et à comprendre pour ce qu'elles sont. Et elles nous indiquent le niveau de satisfaction de nos besoins, parce qu'on a tous des besoins fondamentaux communs, adultes et enfants. Et quand on a éprouvé une émotion agréable, bah, ça nous renseigne sur le fait que certains de nos besoins sont satisfaits. Donc il y a une espèce d'expansion dans le corps, il y a une légèreté, il y a un truc qui va bien, on a éprouvé de la joie, donc on a envie d'aller vers les autres, c'est léger, voilà. Et on se sent bien, et puis parce que notre besoin, par exemple, de reconnaissance, il est satisfait. Notre besoin de communion, d'union est satisfait. Donc voilà. Et par contre, les émotions désagréables, elles vont plutôt se traduire dans le corps par de la contraction, par du retrait, par de la fuite ou par de l'attaque, parce que ça renseigne sur des besoins humains fondamentaux qui sont pas satisfaits. Donc l'idée vraiment de raisonner en termes d'émotions et de besoins, ben, ça permet de comprendre déjà qu'il n'y a pas de caprice et ça va nous permettre, nous, en tant que parents, de faire preuve d'empathie pour ce que l'enfant vit, parce qu'on va pouvoir s'y attacher, le comprendre et puis le rejoindre dans ce qu'il vit, dans ses émotions, dans ses besoins. Et puis, troisième point sur lequel s'appuie l'empathie, c'est aussi raisonner en termes d'attachement. Donc, l'attachement, c'est un besoin aussi que tous les humains ont, mais pas seulement les bébés, pas seulement les enfants, les adolescents aussi, les adultes et même les seniors. Et moi, j'aime bien utiliser cette image du seau ou du réservoir d'amour. Et ben, quand notre seau, il est tout rempli d'amour, on est joyeux, on est avenant, on se sent plein d'énergie. Et puis, au fur et à mesure que le seau, il se vide, et ben, on va devenir plus irritable. On va devenir moins patient. Puis peut-être même parfois, on va avoir recours à des stratégies inappropriées pour le remplir. Donc on va peut-être venir chercher de l'attention en titillant, en embêtant ou en réclamant, en étant très insistant. Et ça, c'est valable pour les adultes comme pour les enfants. Et donc quand on comprend qu'en fait un enfant, il cherche pas les limites, il cherche pas l'attention en fait. Ce qu'il cherche, c'est de la relation. Et bah pareil, ça permet de faire preuve d'empathie pour dire « Ah, là, ton seau, il est vide, j'ai l'impression. Hein. T'aurais besoin d'un gros câlin, c'est ça. Hein. » Oui, et bah oui, mais tout de suite, en fait, ça désamorce le conflit, ça désamorce la tension parce qu'on est capable de comprendre ce qui sous-tend le comportement d'un enfant. Et comme on le comprend, et bah on est capable de le rejoindre. Et c'est ça, l'empathie, en fait. C'est vraiment un super pouvoir qu'on possède tous. Et recevoir de l'empathie, c'est un besoin qui nous anime tous. Et par exemple, le parent, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup avec ma fille. Quand je sens que je suis un peu plus impatiente que d'habitude, je me sens irritable, un peu agacée sur des trucs qu'on ne comprend pas bien, ben je lui dis là, en fait, j'ai l'impression que mon seau, il est vide. Et elle le comprend très bien parce que c'est une image qu'on utilise souvent à la maison. Elle l'utilise, je l'utilise. Et maintenant, c'est elle qui me dit « Maman, ton seau, il est vide. » Tu veux un câlin? Ben ouais, je veux bien un câlin, ouais.
Et rien que ça, c'est trop bien.
Change la qualité. En fait, ça change la qualité de la relation. Alors, je dis pas que ça se passe toujours bien. Hein. Il y a aussi des moments où il y a des conflits, il y a des désaccords. Mais voyez, c'est vraiment raisonner en termes de qualité de l'intention et de la relation. Quoi.
Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, pour faire la transition là-dessus, il y a quelque chose que vous prenez beaucoup, c'est s'engager dans l'éducation sans récompense ni punition. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez pourquoi, selon vous, il est inefficace de récompenser ou de punir son enfant.
Alors, pour moi, récompense et punition, de toute façon, c'est les deux faces d'une même pièce. Et pour moi, quand on introduit de la récompense ou de la punition dans une relation, c'est toujours un constat d'échec. C'est qu'on n'a pas réussi à créer du nous, en fait, justement, cette qualité de relation entre l'adulte et l'enfant. Et pour moi, c'est alors inefficace. Finalement, on peut se demander, mais inefficace, pourquoi, en fait ? Moi, elles sont inefficaces pour élever des enfants forts et en bonne santé physique, mentale, émotionnelle. Parce que récompenser, punir, ça va toujours dégrader la qualité du lien. Ça a un impact négatif sur l'estime de soi des enfants. Et puis, ça prend pas en compte les motivations internes. Et surtout, ça ne développe pas de compétences. Quand on punit, quand on récompense, on ne montre pas quoi faire à la place. On n'engage pas la créativité de l'enfant pour trouver des solutions. On ne lui montre pas les conséquences de son acte sur les autres. Donc, on ne développe pas leur sens moral, leur sens éthique, leur sens de la responsabilité individuelle collective. Et en fait, on se rend compte que punir, on punit, mais c'est finalement, c'est un signe d'impuissance pour nous en tant que parents. Et moi, je m'en suis rendu compte en tant qu'enseignante, notamment. Je me suis mise à punir et à utiliser des systèmes de croix, envoyer chez la directrice, parce que j'étais impuissante, parce que j'étais débordée et il manquait de ressources pour faire autrement. Et surtout, les punitions, elles sont souvent données sous le coup de l'exaspération, donc elles sont très souvent irrationnelles, sans aucun lien avec le comportement de l'enfant, donc l'enfant n'en apprend rien. Pas d'enseignement de compétences, en fait. Et puis, les enfants, ils finissent toujours par se blinder par rapport aux punitions. Hein, c'est le fameux « même pas mal » ou « je m'en fiche, de toute façon ». Donc, pareil, de toute façon, il va continuer le comportement inapproprié parce que « m'en fiche, même pas mal ». Et puis, il y a une espèce de bénéfice secondaire quelconque à trouver, hein, qui fait qu'il va continuer le comportement malgré la punition. Parce que par ailleurs, en fait, il y trouve son compte en termes de pouvoir personnel, par exemple, en termes de « je te tiens tête », tu vois. On est dans un rapport de force, bah c'est moi qui suis en force. Parce que tu vois, tu me punis, mais je continue. Donc en plus, voilà, on dégrade la qualité du lien, de la relation. Et puis les enfants, on le sait très bien, ils finissent toujours par développer des stratégies pour échapper aux punitions. Ils vont faire le mauvais coup à un plus jeune, à un petit frère, à une petite sœur. Ils vont mentir, ils vont se cacher pour faire ça. Donc en plus, on induit des comportements qu'on ne veut pas. La plupart du temps, les enfants qui mentent, pas toujours, hein, mais ça arrive quand même souvent qu'un enfant qui ment, il ment parce qu'il a peur de la punition en fait. Il ment pas tant. Le mensonge, c'est prendre un risque de mentir, d'être encore plus puni. Mais pourquoi je prends ce risque ? Parce que déjà à la base, j'ai peur d'être puni en fait. Et puis moi, j'ai un vrai problème avec la justification des punitions qu'on peut entendre de manière habituelle, de dire « Ah, mais ça va, une petite punition, ça n'a jamais tué personne. » Mais du coup, c'est reconnaître que ça n'a aucun effet dissuasif. Ouais, ça va, c'est pas si grave. Bah, alors, dans ce cas, à quoi ça sert si ça sert à rien, que c'est pas si grave ? Peut-être qu'on peut s'en passer. D'autant plus qu'il y a un risque d'escalade. Parce que si je me dis « Moi, la petite punition... » c'est pas si grave, bah, c'est-à-dire qu'elle fonctionne pas. Mais alors, quelle alternative pour que ça fonctionne ? Une plus grosse punition ? Et si la plus grosse punition, elle fonctionne pas, qu'est-ce qui nous reste ? Enfermer ? Secouer ? Frapper ? Enfin, on voit bien qu'en plus, c'est quand même une pente assez glissante qui peut nous envoyer, voilà, nous emmener vers des choses vraiment dans une escalade de la violence. Donc, et en plus, les punitions, elles sont source de stress. Parce que l'enfant, il a honte. Il se sent coupable, il a peur, et il a une vraie peur. Alors, peur d'être puni, d'avoir mal, et puis peur de ne plus être aimé aussi. Et en fait, un enfant sous stress, il peut rien apprendre parce qu'il est déconnecté de son cerveau rationnel, de son cerveau supérieur qui réfléchit. Donc, il n'y a aucun apprentissage qui peut se faire sous stress et donc sous punition. Puis en plus, le stress niveau élevé et fréquent a des répercussions néfastes sur le développement du cerveau. Donc en plus, on fait du mal vraiment à plusieurs points de vue aux enfants quand on les punit. Et puis moi aussi, il y a quelque chose sur lequel je voudrais insister. Quand on punit un enfant, on entraîne une vraie confusion des règles morales. Parce qu'on dit à l'enfant, on a le droit de faire souffrir quelqu'un, mais si tu dis que c'est pour son bien, ça va. Moi, adulte, qui suis plus fort, j'ai le droit de te faire souffrir parce que toi, tu es plus faible, sous couvert d'éducation. Donc, on apprend en plus aux enfants que les plus forts ont le droit de faire souffrir les plus faibles, mais tant que tu arrives à peu près à justifier que c'est pour son bien, ça va, c'est pas très grave. Donc, voilà, moi, vraiment, la punition, je pense que c'est un leurre parce qu'on n'apprend rien. Et puis, en plus, ça peut entraîner une vraie démission de l'enfant parce qu'il va se dire, bah, ok, j'ai expié ma faute, j'ai été puni, je m'en lave les mains maintenant, j'ai payé. Sans chercher à réparer la relation, sans chercher à s'excuser, ou alors il va aller s'excuser parce qu'on l'oblige à s'excuser, mais sans que ces mots aient un sens et qu'il y ait une réelle compréhension derrière avec un développement du sens de la responsabilité, voilà, d'une éthique de je ne fais pas aux autres ce que je voudrais pas qu'on fasse. Donc pour moi, la punition, c'est vraiment un constat d'échec, et puis quand on s'engage dans la coéducation émotionnelle, elle devient caduque de fait. En fait, on n'en a plus besoin parce qu'on est suffisamment compétent et on se sent suffisamment compétent en tant qu'adulte pour aller mettre le décodeur, pour aller voir la vérité de l'enfant et puis pour comprendre ce qui, dans l'environnement, vraiment au sens large, a fait obstacle ou a entraîné des comportements inappropriés.
Bien sûr. Oh, super intéressant. Et qu'en est-il des récompenses ?
Oui, et alors les récompenses, donc, comme je disais, pour moi, c'est vraiment l'autre face d'une même pièce. Et j'aime beaucoup l'approche donc de Thomas Gordon, qui était un psychologue américain, qui a beaucoup réfléchi notamment au système punition-récompense pour le dénoncer. Et lui, il dit, en gros, les récompenses, elles sont efficaces à deux conditions. Il faut que l'enfant, il veuille vraiment la chose promise par le parent, et surtout, qu'il puisse pas l'obtenir par lui-même. Donc on comprend que, de fait, ça implique un rapport de force et de domination. Puisque l'enfant, il est mis dans un état de dépendance et de crainte. De crainte que si je fais pas ça, eh ben, je vais quand même rater un super truc. J'aurai pas le super truc promis qu'on me fait miroiter. Donc, on comprend bien que déjà là, la qualité de la relation, eh ben, elle en prend un petit coup. Et si on prend le raisonnement inverse, on peut se demander alors, ben, pourquoi les récompenses, elles sont inefficaces? Bah déjà, à un moment, il va arriver que l'enfant grandit et que finalement, la chose promise, elle aura beaucoup moins de valeur. Et donc, bah, je m'en fiche, hein, je fais pas ton truc parce que ta récompense, elle m'intéresse pas. Il peut arriver aussi qu'il y ait un autre système qui est beaucoup plus valorisé que les récompenses promises par les adultes. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les garçons turbulents, par exemple, en classe. Ceux qui vont faire le clown, les garçons indisciplinés. Ben ouais, mais parce qu'en fait, ils ont beau être menacés de punition ou être appâtés par des récompenses, la plus grande des récompenses, c'est leur statut social de voilà, c'est celui qui met l'ambiance, c'est celui qui tient tête au prof. Et donc, si la récompense sociale, elle est plus importante que ce que les adultes, ils peuvent bien me faire miroiter, ben y a, j'ai aucune raison de coopérer. Et puis pareil, en grandissant, ben les enfants, ils vont peut-être obtenir leur propre récompense. Par exemple, ou alors développer des stratégies pour acquérir ces récompenses sans avoir besoin de passer par les parents. Je pense par exemple à un parent qui promet des bonbons à un enfant qui débarrasse le lave-vaisselle, par exemple. Et ben si la condition pour que ça marche, c'est que l'enfant il soit pas capable d'avoir accès tout seul aux bonbons. Donc il faut que les bonbons soient cachés, soit ils soient en hauteur, soit voilà, d'une manière ou d'une autre, que la boîte soit fermée à clé, j'en sais rien, que le parent il soit en rapport de force. Mais si l'enfant, il a bien compris où étaient cachés les bonbons et qu'il met une chaise sous le placard et puis qu'il y a accès, bah, sa récompense, il se l'offre lui-même. Alors, aller débarrasser ton lave-vaisselle, rien à faire. En fait, on voit bien qu'on coupe toute envie de contribuer, en fait, d'agir par simple joie, par simple plaisir d'être ensemble, par envie, par... voilà, juste, on tue la spontanéité, en fait, avec les récompenses. Parce que ça c'est du chantage, en fait, la récompense. Chantage des parents, avec une menace implicite. Si tu fais pas ce que je te dis, tu vas rater ce truc génial, ou tu n'auras pas ce truc super génial. Et puis, on apprend, du coup, aux enfants à faire du chantage. Attends, tu m'as demandé de faire ça? Ok, bah, je le ferai, mais si et seulement si, tu m'emmènes, je sais pas trop où, au parc, si et seulement si tu me donnes 2 euros. Et donc, pareil, on introduit un biais dans la relation de chantage. Il n'y a plus de don spontané et juste dans la simple joie de contribuer. Et puis, pareil, comme les punitions, les récompenses, à un moment, elles créent de l'angoisse, du stress. Parce que, est-ce que je vais l'obtenir, ma récompense ? Et si papa, il me promet de m'emmener au restaurant, enfin, j'en sais rien, ou de m'acheter un nouveau jeu pour ma console, si j'ai au moins 8 sur 10 de moyenne, et qu'est-ce qui se passe si je l'ai pas ? En fait, ça crée vraiment ça peut créer un niveau d'anxiété et même de découragement qui sont préjudiciables aux enfants. Donc voilà, pareil, les récompenses, il y a vraiment un problème parce que on introduit une manipulation dans la relation et on peut même créer du ressentiment. L'enfant, il peut en vouloir, il se sait manipuler, donc il va en vouloir à ses parents ou aux adultes hein, de manière générale qui recourent aux récompenses. Et on brise son autonomie, on brise le développement de ses compétences, voilà, l'impression d'être maître de lui-même et puis de développer, d'apprendre des choses par lui-même. Et il perd le sens de ses actions, de ce qui compte vraiment pour lui.
Mais oui, c'est sûr. Sylvie, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à l'école ?
Oui, moi je voulais parler, je voulais revenir sur la punition parce que je partage complètement le point de vue. Et dans nos écoles d'ailleurs, les enseignants n'ont pas la possibilité de punir. Il n'y a pas de colle, il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de punition. Parce que pour moi, ça n'a aucun sens quoi. Et on remarque souvent dans les établissements scolaires, dans les collèges, dans les lycées, qu'en fait les enfants qui sont punis, ben en fait c'est toujours les mêmes. Donc c'est bien que la punition, elle fonctionne absolument pas en fait. Et c'est vraiment pas une façon d'agir avec les enfants. Et on voit aussi que les professeurs, donc ont pas ça à leur disposition, bah du coup ils sont obligés de trouver des moyens justement d'intéresser les élèves, d'éviter d'avoir du chahut, du non-respect, etc. Et moi je suis vraiment à fond sur cette idée et sur l'idée de récompense, c'est la même chose. On sait bien qu'un enfant, c'est pas sain de travailler pour une récompense et on ne prépare pas non plus à sa vie d'adulte parce que quand on est adulte, quand on fait quelque chose, on n'a pas une récompense en fait. Donc quand on pense à préparer les enfants à leur monde quoi, quand ils seront grands, je pense que c'est pas du tout une façon d'agir de leur dire si tu fais ça, t'auras ça. Et il faut beaucoup plus développer le plaisir de faire les choses, l'envie de se dépasser, même l'envie de faire quelque chose aussi. Parce que ça se fait plaisir à soi et puis après ça fait plaisir aux autres. Donc moi je suis totalement en phase avec tout ça et je pense que quand je vois qu'il y a des écoles où il y a encore des images, des soleils, des je ne sais quoi pour récompenser l'enfant, je pense qu'on est vraiment à côté de ce dont ils ont besoin, sans compter la perte de confiance en soi quand on est puni ou quand on n'a pas l'image ou le soleil ou le sourire ou je ne sais quoi. C'est terrible pour l'enfant, il y a des enfants et il travaille que pour avoir ça. Moi, j'avais même connu une directrice d'école qui allait tricher dans la classe d'à côté de son fils et qui rajoutait des petites choses pour que son enfant ait un soleil ou je ne sais plus quoi. Et donc, je suis vraiment en phase totale avec cette façon de voir et je comprends même pas que ça existe encore. Parce que déjà, Maria Montessori, il y a je sais pas combien d'années, expliquait qu'il fallait absolument pas à l'école ni nulle part être sur la punition et la récompense en fait. Mais par contre, faut pas oublier les encouragements, parce qu'il y a des gens après, ils pensent que récompense, ça veut dire pas d'encouragement. Je pense que les encouragements sont nécessaires à l'école, en tout cas, pour rassurer, pour etc. quoi.
Oui. Et moi, j'aime bien. C'est une citation que j'ai mis dans mon livre justement de Maria Montessori, qui dit que pour elle, les récompenses sont l'esclavage de l'esprit, et que les seules récompenses qui vaillent sont la joie intérieure, donc ça rejoint cette idée de plaisir que vous mentionniez, et la gratitude d'autrui, donc c'est le plaisir de l'autre. Voilà.
Bien sûr.
Exactement.
Et Caroline, vous avez des conseils concrets à donner à nos auditeurs sur justement des méthodes de communication ou autres pour arriver à éviter ces punitions et ces récompenses qui sont souvent malheureusement des automatismes un peu inconscients?
Oui. Alors déjà moi, alors comme je disais tout à l'heure, moi l'idée c'est pas forcément de fournir des recettes prêtes à l'emploi, mais vraiment raisonner autrement et raisonner tel que proposé dans la coéducation émotionnelle, ça nous invite à comprendre que tout comportement est un moyen de prendre soin d'un besoin. Donc parfois maladroit, parfois inapproprié. Et du coup, vraiment, de fait, les punitions et les récompenses, qui sont en fait un moyen de contrôle, hein, elles deviennent caduques et inutiles parce qu'on prend l'habitude de raisonner autrement, de penser à la qualité de la relation, de penser à la nature de notre demande. Est-ce que ça, c'est approprié? Est-ce que mon enfant va le comprendre? Parce que son développement cognitif lui permet de comprendre cette consigne. Ou est-ce que j'ai besoin, par exemple, de ma consigne, eh ben de la séquencer? Ou est-ce que j'ai besoin voilà, d'en passer une? On fait ensemble, puis une deuxième, et je montre, on fait ensemble. Est-ce que ma demande aussi, elle est adaptée, par exemple, au développement moteur de mon enfant? Est-ce que, vraiment, d'un point de vue de son corps, de ses mouvements, il est capable de faire ce que j'attends de lui? Attendre d'un enfant de moins de 7 ans qui reste 3 heures assis au restaurant sans se lever, c'est pas approprié parce que d'un point de vue moteur, il a besoin de se dépenser et son système d'inhibition, il n'est pas encore assez développé pour lui permettre de rester tranquille. Donc voilà, raisonner aussi en termes de stade de développement, ça va aider à dire, ok, là, comment j'ajuste mes demandes, mes consignes, comment je les passe. Je vais aussi réfléchir à comment j'aménage l'environnement, comment j'aménage mon emploi du temps pour qu'il y ait le moins d'obstacles possible ou comment je donne envie de coopérer. Et puis, je peux me demander aussi comment moi, en tant qu'adulte, je préfère être traitée dans cette situation-là. Est-ce que je préférerais être traitée avec empathie, dignité, confiance dans mes compétences? Ok, j'y arrive pas encore, mais je vais bientôt y arriver. Et puis, on va me montrer comment faire, ou en tout cas, on va me proposer sans imposer des façons de faire. Ou est-ce que je préfère être contrôlée, menacée, et puis me recevoir des leçons de morale? Donc, il y a des alternatives, il y a des choses, l'écoute empathique dont on a parlé tout à l'heure, ça permet aussi de dire, ah, ok, alors attends, là, t'as agi comme ça parce qu'en fait, tu t'es senti comme ça, parce que là, t'aurais eu besoin de, parce que dans ta tête, tu t'es dit, ah, ça, c'est trop injuste, ou j'en ai marre, il y en a que pour mon frère, il y en a que pour ma sœur, c'est toujours pareil, et du coup, eh ben, c'est pour ça que tu l'as poussé, que tu l'as tapé. Vous voyez, vraiment, l'écoute empathique, pour moi, c'est vraiment un outil qui permet déjà de désamorcer les tensions, et puis d'aller creuser au-delà du simple symptôme, en fait, au-delà du comportement inapproprié, d'aller s'occuper de la cause. Et puis tout ce qui peut aussi passer par l'humour, passer par l'imagination, voilà, on peut très bien aussi faire preuve d'autodérision pour nous en tant qu'adultes. Par exemple, si on a établi une règle ou qu'on sait qu'on s'est engagé envers les enfants à moins crier et puis qu'on se retrouve à crier, de dire je sais pas, de se moquer un peu de soi-même en disant « Ah ben là, aujourd'hui, c'était pas une très bonne journée, je crois que monsieur crie... » Enfin, je sais pas, imaginer voilà, une petite phrase un peu humoristique qui va faire baisser la tension. Et puis peut-être aussi que formuler nos demandes de manière un peu rigolote. Monsieur lave-vaisselle peut devenir monsieur mange assiette et puis du coup il a très très faim donc il faut mettre les assiettes dans le lave-vaisselle, ça marche bien avec les jeunes enfants. Et puis mettre les enfants en situation de partenariat, parce que pareil, si moi je mentionne co-éducation émotionnelle, c'est de dire mais finalement les enfants, ils ont autant à nous apprendre que nous à leur apprendre, et ils ont plein d'idées. On peut les solliciter pour dire là on a un problème. Est-ce que tu as des idées toi? Comment on pourrait faire? Est-ce que tu peux me donner 3 solutions à ce problème? Enfin voilà, toujours aussi solliciter les enfants parce qu'ils seront en plus enclins à respecter des règles qu'ils ont participé à construire en fait.
C'est super intéressant. Merci beaucoup Caroline, c'est passionnant. On arrive déjà malheureusement à la fin de cet entretien. Mais je suis sûre que nos auditeurs vont partir avec plein de clés de compréhension. Et déjà nous-mêmes, on en a appris des tonnes. Donc merci beaucoup Caroline, c'était vraiment génial et on est certaine que nos auditeurs apprécieront beaucoup.
Mais merci à vous, c'était avec grand plaisir et grande joie.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleps.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.